Chapitre 3e. Le théâtre antique a son Hamlet, il s'appelle Oreste. Son père, roi et guerrier illustre, a été tué par sa femme et par un proche parent. L'épouse criminelle s'est unie à son complice devenu roi à son tour, et le fils de la victime grandit, misérable, dans l'exil. Mais le jour de la vengeance arrive, l'oracle d'Apollon enjoint à Oreste de laver dans le sang le meurtre de son père. Il part, dresse ses embûches, et secondé par un ami fidèle et par sa sœur, il immole l'un après l'autre Égiste et Clytemnestre. À peine a-t-il plongé son épée dans le sein de sa mère, son regard se trouble, ses esprits s'égarent. Une troupe de hideux monstres, les Érinies, vengeresse des crimes domestiques, l'environne et le poursuit. Le parricide s'enfuit et cherche un refuge près des autels du dieu qui l'a inspiré. Les furies réclament leur proie. Les divinités nouvelles prennent le meurtrier sous leur protection. Un procès s'engage. Oreste est renvoyé absous. Et les Érinées vaincues déposent leur ancien ministère pour devenir les Euménides. Une grande idée domine la trilogie d'Eschyle, le triomphe des dieux de l'Olympe, de la lumière, sur les sombres divinités du foyer, la substitution de la justice politique à la loi inexorable de la famille. Là, et là seulement, est l'intérêt. Les vrais acteurs sont les dieux et le destin qui plane au-dessus d'eux. Les hommes sont les instruments passifs de leur dessein. Oreste est un vengeur, ce n'est pas un caractère. Il ne se demande pas si le meurtre que lui prescrit l'oracle est légitime. Il obéit et frappe en aveugle. Un moment, les prières et les imprécations de sa mère font hésiter son bras. Mais Pylade est là. Pylade, qui n'a pas parlé pendant toute la pièce et qui n'ouvre la bouche que pour dire « Et les oracles de Loxias ?» Ce mot décide Oreste, et Clytemnestre va rejoindre Égiste. Les autres personnages, plus vivants, agissent par des motifs tout aussi simples. Clytemnestre est entraîné par l'amour, par l'ambition et par le souvenir du sacrifice d'Iphigénie. Égiste est un tyran vulgaire, Électre une sœur dévouée, qui n'a pour sa mère que des paroles de dégoût et d'horreur, Cassandre, une voyante fatidique. 20 siècles après, Shakespeare traite un sujet analogue. On y retrouve l'équivalent de presque tous les personnages d'Eschyle. Égiste devient le roi, oncle de Hamlet. Clytemnestre, Gertrude. Pylade, Horace. Comme dans les Euménides, un fantôme vient de l'autre monde et demande vengeance et justice. Mais l'intérêt s'est déplacé. Il n'est plus dans le drame domestique qui s'est accompli et dans celui qui se prépare. Il est concentré tout entier dans l'âme des personnages. C'est là que se passe la vraie tragédie. Le ciel ne trouve plus en Hamlet, comme en Oreste, le docile exécuteur de ses arrêts. Il dit bien quelque part « Il faut que je sois l'instrument des vengeances d'en haut ». Mais il y a un regret dans ses paroles. Elles sont l'expression de la lutte douloureuse qui se livre en lui depuis le jour où il a reçu une mission qui n'excède pas ses forces, mais qui répugne aux plus nobles sentiments de sa nature. Oreste est une nature simple. Hamlet est une nature complexe. Ces deux mots résument toute la différence de l'art antique et de l'art moderne. Bien plus, ils atteignent au-dessous de la forme le fond même des deux civilisations. Depuis l'origine, l'humanité est allée se compliquant et se diversifiant toujours davantage. Les idées se sont multipliées, des sentiments nouveaux ont pris naissance, les rapports des hommes se sont étendus. Chacun de nous est soumis à un bien plus grand nombre d'influences qu'un contemporain d'Homère et d'Eschyle. Nous plions sous le poids des générations qui nous ont précédés. Quoi d'étonnant que les caractères eux-mêmes se soient raffinés comme la société? Les héros de l'Iliade ont presque tous leur épithète caractéristique qui les accompagne comme leur ombre et qui tient lieu d'une longue description. C'est le courageux Hector, l'éloquent Ménélas, le rusé Ulysse. De même, chez les sauvages de l'Amérique, chaque guerrier est désigné par une qualité remarquable de son corps ou de son esprit. L'homme moderne ne se laisse pas sonder aussi aisément. Le germe primitif qu'il apporte en naissant disparaît presque sous la masse des éléments empruntés au dehors. Il s'analyse, il s'examine et en s'examinant, il se modifie. La naissance, la famille, l'éducation, les lectures, les mille frottements du monde ont mis en lui des qualités aussi diverses dans leur nature que dans leur provenance. Son âme est un chaos d'impressions changeantes, de dispositions contradictoires qui se font échec. Il est dans un état d'équilibre instable. Les forces innombrables qui composent sa personne ont une résultante minime. Le moindre ébranlement peut le changer de direction, de clairvoyant le faire insensé, de courageux lâche, de vertueux infâme. La modération est cette rare qualité par laquelle l'homme met de l'ordre dans ses sentiments et de la fixité dans ses idées. Celui qui la possède est un sage. Mais les sages ne sont pas des héros tragiques. Aristote déjà l'a dit. Le dramaturge doit fouiller profondément cette nature humaine, aux ressorts si enchevêtrés, s'il veut faire une œuvre vivante. L'homme moderne enveloppe des contradictions, mais il ne suffit pas d'une antithèse quelconque pour faire un caractère. Et à défaut de l'intuition du génie, l'observation attentive de la réalité peut seule découvrir la proportion exacte où les contraires s'allient. Pour peu que l'on reste au-dessus ou au-dessous, on tombe dans le procédé qui est l'opposé de l'art. La gloire et l'originalité de Shakespeare, c'est d'avoir saisi la mesure précise jusqu'où la complexité des sentiments peut aller dans l'homme sans se perdre dans une incohérence absurde. Ses créations défient parfois l'analyse, mais jamais nous ne doutons de leur réalité. On discute depuis 2 siècles sur Hamlet, mais on en parle toujours comme d'une personne vivante, preuve évidente qu'il est possible, qu'il est humain. L'âme d'Oreste semble trop étroite pour contenir plus d'un sentiment à la fois, celui de la vengeance d'abord, celui du remords ensuite. Chez Hamlet, les sentiments les plus divers se mêlent, s'agitent en tumulte et s'élèvent à la surface les uns après les autres. De là, les aspects contradictoires qu'il présente tour à tour. « Je suis très orgueilleux, » dit-il, « vindicatif, ambitieux. D'un signe, je puis appeler à moi plus de mauvaises actions que je n'ai de pensées pour les méditer, d'imagination pour leur donner une forme ou de temps pour les exécuter. » Tel nous le retrouvons à ses heures quand il tue Polonius, quand il épargne le roi, quand il insulte Laerte. Mais l'instant d'après, son orgueil fait place à l'amitié la plus tendre, sa soif de vengeance au calme de la réflexion, son ambition se contenterait d'une coque de noix et s'y croirait souveraine d'un royaume infini. Il sent qu'il a en lui du caméléon. Shakespeare n'a pas seulement transporté le farouche viking de la légende dans le milieu poli et raffiné d'une cour de la Renaissance. Il ne lui a pas seulement donné le costume, la culture d'esprit, les goûts littéraires et artistiques d'un contemporain d'Arioste et de Jules Romain. Il a fait de lui le type même de l'homme moderne, mélange singulier de vice et de vertu, de savoir et d'ignorance, d'audace et de faiblesse, où le bien domine toutefois. Car quel est le lecteur qui ne s'associe à l'adieu suprême de son ami ? Bonsoir, prince adoré, et que des légions d'anges d'un chant sacré bercent ton doux sommeil. Maintenant, les amateurs d'archéologie sont libres de regretter que Shakespeare ait fait subir cette transformation à son héros. Apparemment, il aurait mieux valu le montrer comme le Hamlet de Saxo, entraînant près d'un marais écarté l'Ophélie envoyée pour le tenter et faisant avec elle ce qui leur causa du plaisir, ou bien étouffant et rôtissant un grand nombre de jeunes Danois rassemblés à table et qui ne lui avaient fait aucun tort. C'est là une affaire de goût. Seulement, ce qu'on n'a pas le droit de mettre en doute, c'est qu'il y a eu chez Shakespeare dessein prémédité, volonté ferme et réfléchie de substituer à ce vigoureux héros barbare l'âme mélangée et contemplative que nous connaissons. Ainsi, les contradictions du caractère de Hamlet qui étonnent l'observateur superficiel se révèlent à une observation plus profonde, comme la marque même du génie dramatique moderne. C'est ce génie contrarié, il est vrai, par l'imitation des anciens, que l'on retrouve dans la Phèdre de Racine, si moderne et si chrétienne, sous les plis de sa draperie grecque. Entre la victime de Vénus et la janséniste à qui la grâce a manqué, il y a autant de distance qu'entre l'Oreste d'Eschyle et le Hamlet de Shakespeare. C'est peu de dire distance, il y a progrès moral. Oreste frappe sa mère qui avait au moins le sacrifice d'Iphigénie à invoquer pour sa défense. Hamlet respecte la sienne qu'il croit coupable et sans excuse. Oreste respire la haine, Hamlet la pitié. Oreste s'indigne du crime de Clytemnestre, Hamlet s'afflige de celui de Gertrude. Le premier menace, le second supplie. L'un apporte le châtiment, l'autre l'expiation et le repentir. Celui-là a des remords après l'acte, celui-ci des scrupules avant d'agir. C'est ce mélange de mépris, de honte et de respect filial qui fait la supériorité de la scène entre Hamlet et sa mère sur la situation correspondante des coéphores. Jamais la tragédie grecque, si parfaite d'ailleurs, et où toutes les puissances de l'art s'unissent dans un concert si admirable, n'a trouvé ces accents déchirants, ces retours impétueux et inattendus dans leur logique, ces transports désespérés d'un cœur partagé entre l'horreur et l'amour. On peut dire que dans cette scène, Shakespeare atteint le dernier degré du sublime et elle donne la clé de la pièce tout entière. Ainsi s'achève Hamlet de Théodore Reinhardt.